Sainte Anne Trinitaire. Un article de Wikipédia, l'Encyclopédie Libre. https://fr.wikipedia.org. Vous écoutez cet article dans sa version du 16 août 2021. L'article comprend les sections suivantes. Sujet. Place dans le corpus biblique. Historique du thème. Dénomination. Support et destination. Iconographie. La Sainte Anne Trinitaire par espace géographique. La Sainte Anne Trinitaire, parfois appelée Sainte Anne en tierce ou Sainte Anne ternaire, est un thème iconographique chrétien anciennement connu sous le nom de Sainte Anne, la Vierge et l'Enfant. Il s'agit d'une image de dévotion associant la grand-mère Anne, la mère Marie et l'enfant Jésus. Le thème se développe dans le cadre du culte rendu à Sainte Anne. Absente des textes canoniques bibliques, la figure et l'histoire de la sainte proviennent du récit apocryphe grec du protévangélique de Jacques, ainsi que de son adoption latine, l'évangile du pseudo-Matthieu. En outre, la propagation des récits de la légende dorée rédigée entre 1261 et 1266 par Jacques de Voragine en assied définitivement l'installation dans la culture populaire. Le motif initial, mettant en scène la figure de Sainte Anne, est un binôme issu de la tradition orientale, où elle est associée à sa fille Marie. Parvenue en Europe à la suite des croisades, le motif se voit adjoindre la figure du fils, dès la seconde moitié du XIIIe siècle, dans le Saint-Empire romain germanique, et à partir du XIVe siècle en Italie. La représentation de la Sainte Anne Trinitaire prend son essor véritable dans l'Occident chrétien à partir du milieu du XIVe siècle et connaît son apogée à la fin du XVe et au début du XVIe siècle, notamment en Italie, ainsi que dans les pays de culture germanique où elle subsiste jusqu'au XVIIe siècle. Le thème est présent sur tous les supports, mais apparaît principalement sous forme de sculptures et de peintures. Bien qu'ayant évolué au cours du temps, ses caractéristiques iconographiques ont toujours pour but de signifier la dépendance physique et la subordination de Marie et Jésus envers Anne. Ainsi, les œuvres adoptent parfois un caractère antinaturaliste, où Marie et sa mère peuvent avoir le même âge et la première être miniaturisée. De même, il arrive que Marie soit représentée comme une petite fille à peine plus âgée que son fils. Deux types de compositions cohabitent. Une composition verticale, directement issue de la tradition byzantine, où la sainte domine sa descendance et que l'on trouve plutôt en Italie, et une composition horizontale, qui dérive de la peinture et à la faveur des pays du nord de l'Europe. Dans la première moitié du XVIe siècle, le thème connaît un relatif reflux après les critiques de Martin Luther puis du Concile de Trente, qui remettent en cause le rôle de Sainte Anne et sa dévotion qui est alors considérée comme déplacée. Sont incriminés l'épisode légendaire du triple mariage de la Sainte, de même que l'impossibilité pour Marie, alors adulte, de côtoyer sa mère qui est morte lors de sa prime enfance. Certains chercheurs considèrent par ailleurs que ces critiques constitueraient également la remise en cause de ce qui est en fait vu comme la résurgence d'un culte païen antique, d'autant plus grave qu'il concerne une figure féminine. Une image illustre cette introduction. Artiste inconnu, Sainte Anne Trinitaire, dite Anna Selbdritt, vers 1500, Kronach, Fränkische Galerie. Première section. Sujet. Une image illustre cette section. Une scène importante de la vie de Sainte Anne, la rencontre d'Anne et de Joachim à la Porte Dorée, Giotto di Bondone, entre 1303 et 1305, église de l'Arena de Padoue. Le thème de la Sainte Anne Trinitaire fait intervenir, outre Jésus et sa mère Marie, la figure d'Anne. Considérée par la tradition chrétienne comme la mère de Marie, donc la grand-mère de Jésus, et l'épouse de Joachim, Anne est vénérée comme une sainte. En effet, alors que les parents de Marie ne sont jamais mentionnés dans les textes canoniques bibliques, leur histoire est narrée dans le Protévangile de Jacques, un récit apocryphe grec du IIe siècle, intitulée à l'origine « Nativité de Marie ». Au cours du temps, cet écrit subit de modifications pour se conformer aux écrits canonisés. L'histoire est ensuite traduite puis adaptée du grec vers le latin pour former l'évangile du pseudo-Matthieu, connu aussi sous le titre « De Nativitate Sanctae Mariae Virginis » ou « Liber de Nativitate Beate Maria et Infantia Salvatoris ». Elle est enfin enrichie de détails hagiographiques au fil des siècles. Selon le récit, Anne et son mari Joachim forment un couple frappé de stérilité et se séparent de corps pour cette raison. Or, chacun apprend séparément par un ange que la femme est enceinte. Anne et Joachim reprennent la vie commune et en remercient de ce miracle, ils décident de vouer leur enfant à venir à Dieu. Alors que les récits apocryphes s'arrêtent avec la mort des deux personnages dans les premières années de vie de leur fille, la légende du triple mariage de Sainte Anne, qui apparaît au XIe siècle, est reprise au XIIIe siècle par Jacques de Voragine, qui raconte dans sa Légende dorée qu'après la mort de son mari, Anne vit suffisamment longtemps pour se marier encore deux fois, agrandissant le cercle familial autour de Jésus et expliquant ainsi l'existence de la fratrie élargie de celui-ci, écrite dans les évangiles canoniques. Deuxième section, place dans le corpus biblique. Loin de constituer de simples récits anecdotiques de personnages saints, les récits apocryphes, puis la légende dorée de Jacques de Voragine, poursuivent des intentions théologiques précises. En premier lieu, il s'agit d'édifier l'incarnation de Dieu, au moyen de l'établissement de la lignée noble et donc de l'ascendance divine de Marie. Ce n'est plus seulement la vie du Christ qui tient de la sainteté, mais bien celle de Marie, grâce et à travers la figure d'Anne. En effet, le IIe siècle voit se développer des conflits opposant partisans et adversaires d'une naissance humaine ou divine de la mère de Jésus. Elle subit ainsi des attaques l'accusant d'être de basse lignée, voire la soupçonnant d'adultère. Or, le proto-évangile rejette toutes ces affirmations. Marie est née de parents riches, cultivés, citadins de lignée royale davidique. La conséquence en est l'importance, mise en valeur, de la figure de Marie dans la piété et le culte futur. Par ailleurs, ces écrits s'inscrivent dans le cadre de la justification de la conception virginale, selon laquelle Marie a conçu Jésus tout en restant vierge. En effet, d'une part, cette conception devient la répétition d'un miracle qui s'est déjà produit avec sa propre mère, et d'autre part, dès avant sa naissance, Marie est une enfant du miracle, mise à part et bénie. C'est seulement vers la fin du XVe siècle que les promoteurs du dogme de l'Immaculée Conception s'appuient donc sur ces textes pour le justifier, selon lequel Marie, recevant par anticipation les fruits de la résurrection de son fils Jésus-Christ, a été conçue exempte du péché originel. Une note précise. Elle n'a donc pas été corrompue par cette faute initiale qui fait que tout être humain connaît depuis une tendance à commettre le mal. Selon la définition donnée par l'Église catholique, il s'agit du, début de citation, privilège selon lequel, en vertu d'une grâce exceptionnelle, la Vierge Marie est née préservée du péché originel. Le dogme de l'Immaculée Conception a été proclamé par Pie IX, en 1854, à ne pas confondre avec la conception virginale de Jésus par Marie. Fin de citation. Selon la définition de Conférence des évêques de France, Immaculée Conception, sur église.catholique.fr. Comme ce miracle implique que la mère de Marie, Anne, gagne en importance théologique, ils insèrent le thème de la Sainte Anne Trinitaire dans le culte marial pour diffuser leurs idées. Enfin, ces deux objectifs sont mis en évidence par un procédé d'intertextualité biblique qui consiste à inscrire les écrits apocryphes dans la continuité des récits issus de la Bible hébraïque. Les récits du proto-évangélique de Jacques et de l'évangile du pseudo-Matthieu sont ainsi calqués sur le livre d'Elkana et Hannah, les parents de Samuel, prophète et dernier juge d'Israël. De même, il est possible de les rattacher au modèle d'Abraham et de Sarah. Ce rattachement est suffisamment important pour que les chercheurs parlent volontiers du proto-évangélique de Jacques comme d'un midrash chrétien. Troisième section, historique du thème. Première sous-section, émergence et essor de l'Antiquité à l'époque médiévale. Deux images illustrent cette sous-section. Sainte Anne avec Marie enfant, vers 650, Rome, église Santa Maria Antiqua, et Anna Zeltrit, vers 1260, Stralsund, église Saint-Nicolas. La représentation collective de trois personnages d'âge différent trouve son origine dans l'Antiquité. La plus connue représente la déesse Déméter et sa fille Perséphone, accompagnée de Triptolème. Il s'agit alors de personnifier le cycle de la nature du passé, du présent et du devenir. Le motif initial mettant en scène la figure de Sainte Anne est un binôme où elle est associée à sa fille Marie. La représentation se fait dans un contexte d'essor du culte rendu à la grand-mère de Jésus. Celui-ci se développe d'abord en Orient, dans l'Empire byzantin, particulièrement à Jérusalem et à Constantinople dès le VIe siècle. Par la suite, la représentation migre en Occident. La première image d'une âne tenant Marie enfant dans ses bras se retrouve ainsi en peinture sur les murs du presbytère de l'église Santa Maria Antiqua à Rome au milieu du VIIe siècle. Le XIIe siècle marque l'installation définitive du culte de Sainte Anne, notamment en Europe du Nord, avec le transfert de reliques associées au retour de pèlerins lors des croisades. Ainsi, en 1204, la tête de Sainte Anne est confiée à la cathédrale de Chartres, offrant l'occasion de créer, dans le premier tiers du XIIIe siècle, un groupe statuaire votif unissant Sainte Anne et sa fille, qui servira par la suite de modèle pour de nombreux artistes européens. La dévolution à Sainte Anne, limitée longtemps à quelques sanctuaires, se répand dans le monde catholique à partir du XIIIe siècle, avec la propagation des récits de la légende dorée, rédigée entre 1261 et 1266 par Jacques de Voragine, qui a pour conséquence d'associer plus étroitement le culte de Sainte Anne à celui de la Vierge. L'association iconographique des deux femmes est définitivement installée. Pour autant, la dévotion envers la mère du Sauveur exigeant que l'on ne sépare pas la Vierge de Jésus, celle-ci étant considérée en tant que Théotokos, les premières représentations associant la grand-mère, la mère et le fils apparaissent dès la seconde moitié du XIIIe siècle dans le Saint-Empire romain germanique et à partir du XIVe siècle en Italie. De fait, si le culte de Sainte Anne ainsi que l'association iconographique Anne-Marie ont une origine orientale, le thème iconographique de la Sainte Anne Trinitaire voit sa construction en Occident. Il rencontre la plus grande faveur dans le Saint-Empire romain, à tel point que le terme germanique d'Anna Zeltrit, c'est-à-dire Sainte Anne à trois ou entière ou trinitaire, demeure employé dans les autres langues pour dessiner ce groupe. Une note précise, on peut noter tout de même qu'une qualification propre à chaque langue existe. En italien, Sainte Anna Meterza. En espagnol, Sainte Anna Triple, Sainte Anna con Santa Maria y Niño Jesús. En anglais, Sainte Anne with the Virgin and Child. En allemand, Die Heilige Anne Selbst. La première d'entre elles se trouve dans l'église Saint-Nicolas à Stralsund et est datée de 1260. Sainte Anne est assise sur un trône. Marie se tient sur son bras gauche, les pieds posés sur sa jambe gauche. L'enfant Jésus est assis sur la cuisse de sa mère, les jambes croisées. Le corps de Marie, bien qu'elle soit adulte, est réduit par rapport à celui d'Anne. Les traits du visage des deux femmes sont identiques et stylisés. Troisième section, deuxième sous-section, apogée au début de la Renaissance. La représentation de la Sainte Anne Trinitaire prend de l'ampleur à partir du milieu du XIVe siècle et connaît son apogée entre la fin du XVe siècle et le début du XVIe siècle. La finalité du culte de Sainte Anne à travers sa représentation entière est multiple. En tant que grand-mère de Jésus, et donc à l'origine de la Sainte Parenté, son culte est dédié aux femmes stériles ou enceintes dont elle est la patronne. Il se pratique également dans le but d'obtenir son intercession pour être protégée contre les maladies ou les épidémies, ou plus simplement parce que la Sainte est la figure tutélaire du lieu, comme pour la ville de Florence ou la Bretagne entière, où son culte connaît un grand essor. Il apparaît que ce succès procède d'une importante dévotion populaire et non d'un quelconque appui des théologiens ou les autorités ecclésiales, qui redoutent l'importance ainsi dénommée à des figures féminines. De fait, si ces dernières consentent à intégrer cette représentation dans les églises, c'est en la bornant fortement, comme en témoigne, par exemple, son nom donné en Italie de Materza, c'est-à-dire la troisième, pour en souligner sa subordination à la figure masculine de Jésus. Parallèlement, au tournant des 15e et 16e siècles, la controverse sur le dogme de l'Immaculée Conception culmine. Or, ce n'est qu'à cette période, comme le souligne l'historienne de l'art Virginia Nixon, que le dogme et l'iconographie se rejoignent réellement. Début de citation, le rôle d'Anne dans le discours haut médiéval de la conception de Marie était certainement important, mais à ce stade, elle n'était encore associée ni aux pro, ni aux anti-immaculistes. Fin de citation. En 1481, le pape franciscain immaculiste Sixte IV fait ajouter la fête solennelle de Sainte-Anne au calendrier de l'Église romaine le 26 juillet. En 1494, paraît le traité De Laudibus Sanctissime Matris Anne de l'abbé bénédictin Johannes Trithemius, qui joue un grand rôle dans la propagation de son culte. La même année, Alexandre VI favorise le culte de Sainte-Anne par la mise en place d'une indulgence qui promet la remise des péchés à quiconque prononce une prière devant l'image de Anna Meterza, Sainte-Anne, la Vierge et l'Enfant. Le culte de Sainte-Anne se développe donc jusqu'à ce que Sainte-Anne, trinitaire, soit assimilée à une trinité terrestre, en latin Trinitas Terrestris, en référence à la trinité céleste, en latin Trinitas Celestis, dont elle constitue un reflet plus accessible pour le croyant non lettré. Néanmoins, à cette dernière, l'historien de l'art Maya Scapiro préfère le terme d'Humanissima Trinitas, la trinité humaine, en opposition à la Divinissima Trinitas, la trinité divine, en particulier parce que ni Anne ni Marie ne sont essentielles au sens théologique du terme, de même que le groupe ne constitue une trinité que par analogie. Troisième section, troisième sous-section, déclin au XVIe siècle. Une image illustre cette sous-section. Après son acmé, le thème est supplanté à partir du dernier tiers du XVIe siècle par la représentation de la Sainte Anne éducatrice. Artus le Goût, l'éducation de la Vierge par Sainte Anne, début du XVIe siècle, Toulouse, église Notre-Dame du Thor. Après cette période, bien qu'il demeure populaire, notamment en Europe du Nord, le thème connaît un relatif reflux. En effet, dès 1518, Martin Luther critique le culte rendu à Sainte Anne, le plaçant en tête des déesses du panthéon des idolâtres. De même, les réformateurs s'indignent de la prolifération des reliques et des légendes parasitaires relatives à la sainte, s'appuyant notamment sur le caractère apocryphe de son histoire. En réaction, le Concile de Trente, qui constitue une réponse aux théories protestantes, remet en cause, en 1563, le rôle de Sainte-Anne et sa dévotion, qui est alors considérée comme déplacée, bien qu'elle ne soit pas strictement interdite. Sont ainsi particulièrement critiqués certains épisodes de son histoire, dont en particulier l'épisode légendaire de son triple mariage, en latin Trinubio. De même, le Concile reconnaît l'impossibilité pour Marie, alors adulte, de côtoyer sa mère, pourtant morte, lors de sa prime enfance. Dès lors, le titre de Trinité terrestre glisse progressivement vers la Sainte Famille, tandis qu'à Anne est confié le rôle plus neutre d'éducatrice. Le pape Pie V est alors conduit, en 1568, lorsqu'il établit le calendrier romain tridentin, à supprimer l'office qui lui est dédié. Cette évolution explique que la trinité maternelle décline dès le milieu du XVIe siècle dans l'art occidental. C'est pourquoi Annie Cloula-Brousseau considère, début de citation, curieux de retrouver au milieu du XVIIIe siècle une résurgence du groupe trinitaire en Italie. Fin de citation. S'il demeure assez vivace en Espagne au XVIIe siècle, il décline par la suite. Seul le Nouveau Monde voit son intérêt se maintenir jusqu'au XIXe siècle. En Europe du Nord, en revanche, le thème étant très bien implanté, il décline plus lentement, d'autant qu'en 1584, le pape Grégoire XIII rétablit officiellement la fête d'Anne le 26 juillet, et qu'en 1622, Grégoire XV en fait une fête obligatoire et chômée. Le thème se décline en sainte parenté dans les aires germaniques et néerlandaises, puis il cohabite avec celui de l'éducation de la Vierge, dont les premières figurations apparaissent en Angleterre dès le XIVe siècle, pour le supplanter au tournant des XVIe et XVIIe siècles. Troisième section, quatrième sous-section, désaffection à l'époque contemporaine. Malgré sa désaffection, le thème de la Sainte Anne Trinitaire peut continuer d'inspirer les artistes, mais il s'agit alors d'artistes plutôt mineurs et seulement jusqu'aux années 1930. Quelques résurgences sont ainsi signalées dans l'art chrétien d'Orient, comme au monastère de Kikos à Chypre. Plus tard, il se rencontre encore plus rarement, comme dans les tableaux datant de 2010 et 2011, chez le peintre et sculpteur français Arcaba, reconnu pour son importante production dans le domaine de l'art sacré. De fait, le thème se rencontre plutôt occasionnellement lorsqu'un créateur montre sa volonté de relire l'œuvre d'artistes du passé. Ainsi, l'artiste britannique Janis Saville s'inspire du carton de Burlington House de Léonard de Vinci dans une série d'œuvres intitulée Mothers. Elle s'y représente encore tenant deux bébés, se tortillant dans les bras, et y interroge l'acceptation de l'éventualité de la mort de l'enfant dans la société moderne. Enfin, le thème fait l'objet d'une certaine méconnaissance d'auteurs modernes tels Sigmund Freud, qui, dans l'édition 1919 de son ouvrage « Un souvenir d'enfance » de Léonard de Vinci, décrit le thème comme exceptionnel dans l'art de la Renaissance, affirmation que l'historien d'art américain Myers Shapiro démontre dans son article « Leonardo and Freud, an Art Historical Study ». Quatrième section, dénomination. Le thème est le plus souvent appelé « Sainte Anne Trinitaire » dans l'ère francophone. Il s'agit d'une dénomination récente et il ne se trouvait désigné auparavant que par une formule descriptive comme « Sainte Anne, la Vierge et l'Enfant Jésus », contrairement à « l'Anna Meterza » en italien et « l'Anna Selbstritt » dans l'ère germanophone. Une hypothèse expliquant ce manque serait un relatif désintérêt pour le thème en France, à part en Bretagne, en Normandie et dans le centre. De son côté, le docteur en théologie Jean-Pierre Maïdani-Gérard préfère la formulation empruntée aux travaux du philosophe Jean Laplanche de Sainte-Anne-en-Thiers, qui l'orthographie également Sainte-Anne-en-Thiers avec des tirets entre Anne, An et Thiers. Il s'agit pour lui de rendre compte de la signification de l'italien Meterza, celle qui est la troisième dans une série de trois, selon la traduction qu'il en fait, qui exprime non un ordre chronologique correspondant à une généalogie, mais un ordre hiérarchique puisque le premier est Jésus, en tant que Dieu et le Fils de Dieu, et la seconde est Marie, en tant que mère de Jésus. De fait, il explique le choix initial de ce mot en Italie par une volonté de mettre une distance entre la sainte et les fidèles afin d'éviter toute dévotion idolâtre, d'autant plus condamnable qu'elle est destinée à une femme. On trouve par ailleurs Sainte Anne Ternaire, que promeuvent plutôt les théologiens pour qui le terme Sainte Anne Trinitaire est fâcheux car il encourage des spéculations dénuées de toute pertinence théologique, en entretenant une confusion avec le dogme théologique de la Trinité de Dieu. Enfin, on trouve également Sainte Filiation, mais cette désignation demeure assez rare sous la plume des chercheurs. Cinquième section, support et destination. Six images de mise en œuvre artistique du thème sur différents supports, vitrail, bas-relief, sculpture, enluminure, retable et peinture, illustrent cette section. Sainte Anne Trinitaire, 1532, cloître du monastère de Wettingen, canton d'Argovie, Suisse. Sébastien Ducete et Esteban de Rueda, Sainte Anne, la Vierge et l'Enfant, 16e siècle, Valladolid, Espagne, basilique mineure et sanctuaire national de la Grande Promesse. Sainte Anne Trinitaire, 14e siècle, musée des Beaux-Arts de Lyon. Maître du Parement de Narbonne, Heure Egerton, vers 1410, British Library, numéro d'inventaire Egerton 1070, F97. Artiste anonyme, triptyque de Sainte Anne, vers 1520, Dobre Miasto, Pologne, Église Saint-Sauveur. Atelier de Lucas Cranach l'Ancien, Sainte Anne, la Vierge et l'Enfant, avant 1515, Allemagne, collection particulière. Du fait de sa grande popularité, le thème de la Sainte Anne Trinitaire apparaît dans tout le spectre de l'espace religieux. De façon minoritaire, il est présent dans l'espace domestique sous forme d'objets de dévotion personnelle, comme des bréviaires, des petits retables ou des statues votives ou protectrices destinées à orner le mur extérieur de la maison, ou bien sous forme d'objets à destination plus profane, par exemple en tant que décor de meubles comme observé aux Pays-Bas sur des ermeaux ornant la face avant des coffrets. Mais le thème apparaît surtout dans l'espace plus large de la vie en communauté, notamment dans les grands religieuses et plus souvent encore dans les églises. Dans ce cas, il est volontiers destiné à des retables. Il est alors fréquemment situé dans une console ou une niche qui flanque le panneau central, ou bien sur la prédelle servant de support horizontal à l'œuvre. En effet, la quasi-totalité des représentations de la Sainte Anne Trinitaire prennent la forme de peintures et de sculptures. La statuette est le plus souvent polychrome et s'insère généralement au centre des retables. On trouve même, quoique de façon anecdotique, des pantins articulés sur les clercs en charge de leur entretien doivent habiter selon la période de l'année. De fait, la sculpture du thème présente majoritairement des dimensions moyennes et on note une faible inclination pour l'art monumental. De même, la production apparaît moins fréquemment sous forme de bas ou haut relief qui s'insère alors le plus souvent dans les prédelles de retables. La production picturale constitue la plus abondante des techniques visant à représenter le thème. Retables, tableaux d'autel, fresques et tableaux ornant les murs des églises. Gravures, notamment en Europe du Nord. L'utilisation d'autres supports est moins courante, même si elle n'est pas exceptionnelle. En témoignent des vitraux où les trois personnages sont souvent associés aux donateurs et des émaux peints provenant par exemple de Limoges au XVIe siècle qui permettent de magnifier le sujet. Sixième section, iconographie. Première sous-section, attributs. Différences d'âge et proportions corporelles. Une image illustre ce paragraphe. Artiste inconnu, Anna Zeltritt, XVIe siècle, Gießen am Ammersee, Bavière, chapelle Sainte-Anne. La relation mère-fille étant prégnante dans la thématique, leur écart d'âge est privilégié, mais conduit à des représentations antinaturalistes. En effet, si Anne est le plus souvent représentée avec les attributs conventionnels médiévaux d'une femme d'âge mûr d'une soixantaine d'années, visage aux traits marqués, richement vêtu, portant un voile et une quimpe stricte, Marie apparaît fréquemment en fillette à peine plus âgée que Jésus, à tel point qu'il serait possible de prendre Jésus et Marie pour frères et sœurs. Par ailleurs, la plupart du temps, l'art classique représente Sainte Anne comme la plus grande ou la plus majestueuse des trois figures. Ainsi, lorsque l'artiste choisit d'attribuer à Marie un âge identique à sa mère, elle apparaît alors miniaturisée, souvent de la même taille que Jésus, qui, lui, offre des proportions normales par rapport à sa grand-mère. C'est en particulier le caractère mystique du thème qui pousse artiste et commanditaire à outrepasser ainsi les règles temporelles ou physiques. Il s'agit ainsi de signifier la dépendance physique et la subordination de Marie et Jésus envers Anne. Gestuelle. Quatre images illustrent ce paragraphe. Artiste anonyme, Santa Anna Meterza, vers 1450, Boccioletto, Italie, oratoire de San Lorenzo all'Alpe Seccio. Cornelis Engelbrechts, La Vierge et l'Enfant avec cette Anne, vers 1500, Berlin, Gemäldegalerie. Albrecht Dürer, La Vierge, l'Enfant Jésus et Sainte Anne, 1519, New York, Metropolitan Museum of Art, numéro d'inventaire 14-40-633. Et Hans Baldung, La Sainte Famille avec Sainte Anne et Saint Joseph, gravure sur bois, vers 1511. Souvent représentée en position surplombante dans les compositions verticales ou bien en majesté assise sur un trône, Sainte Anne manifeste une certaine domination protectrice qu'un geste tendre envers sa fille peut adoucir. De son côté, cette dernière est le plus souvent tournée vers son enfant qu'elle peut soutenir ou présenter. Parfois, elle effectue un geste de prière, les mains jointes. Enfin, l'enfant accomplit le plus souvent un geste de bénédiction ou d'offrande. En outre, Jésus ou Anne placent souvent leurs mains, vides ou portant un objet, entre Jésus et Marie. Le geste est porteur d'une signification théologique symbolisant ce qui sépare le fils de la mère, le futur destin tragique de l'un et le devoir pour l'autre d'offrir son fils au monde. De façon plus anecdotique, Handspaltung représente Anne tenant le sexe du bébé entre les doigts, ce geste étant appuyé par le regard des deux femmes convergeant dans cette direction. Selon une majorité de chercheurs, il s'agit alors d'attirer l'attention du spectateur sur l'humanité incontestable de Jésus, fait homme et fait Dieu. Néanmoins, selon l'historien de l'art Jean Wirth, Sainte Anne, qu'il assimile à une sorcière, fait ici un geste de conjuration effectué dans le cadre d'un rituel magique dans le but de condamner Jésus à la chasteté forcée. Vêtements. Une image illustre ce paragraphe. Maître du livre de raison, la Vierge avec Sainte Anne et l'enfant, vers 1490, Allemagne, Oldenburg, musée d'état d'art et d'histoire culturelle. Le plus fréquemment, Sainte Anne porte des vêtements riches et stricts, marquant ainsi son âge et le fait qu'elle est mariée. Il s'agit du costume des béguines, consistant généralement en un manteau rouge, en cas de polychromie, aux larges plis, une guimpe formant mentonnière et un voile blanc qui cache les cheveux. Les vêtements et la coiffure de Marie sont ceux d'une petite fille. Ses cheveux sont dénoués selon les conventions médiévales, en même temps qu'ils peuvent être ceints d'une serre-tête, afin de signifier sa virginité et sa piété. Et parfois, elle porte le même ample manteau noir ou bleu à manches que sa mère, symbolisant son humilité. Le petit Jésus, enfin, est presque toujours nu pour signifier sa nature humaine. Il n'est que rarement porteur de vêtements. Ils sont alors sacerdotaux, dans le but de réaffirmer, contre le protestantisme, le sacramentalisme catholique. Couleur. Une image illustre ce paragraphe. Artiste anonyme, Anna Selbtritt, 1486, Stuttgart, livre de prière de Waldburg, code brève 12F51V. La plupart du temps, la distribution des couleurs suit une codification stricte, rouge pour Sainte Anne et bleu pour Marie, suivant en cela les modèles orientaux. Parfois, notamment en Europe du Nord, Marie est enveloppée par l'ample manteau noir de sa mère, signe d'amour et de protection. Par ailleurs, Anne porte la plupart du temps un voile sur la tête dont le blanc est signe de pureté. Quant à l'arrière-plan, lorsqu'il s'agit de peinture, il est très fréquemment de couleur or, constituant un signe du sacré. Objet. Deux images d'exemples d'objets exhibés par les personnages du thème. Artiste anonyme, Sainte Anne Trinitaire entre 1495 et 1504, Utrecht, Pays-Bas, musée du couvent Sainte-Catherine. Et Francesco Traini, Vierge à l'enfant avec Sainte Anne, 1340 à 1345, Princeton, musée d'art de l'université. Les trois personnages sont très souvent porteurs d'une auréole, symbole du caractère sacré de leur personne. Sainte Anne est souvent assise sur un trône. Elle peut tenir un livre des Saintes Écritures, symbole de sagesse et de savoir, évoquant ici son rôle d'éducatrice. Elle peut présenter un fruit à l'enfant, une pomme ou une poire, comme allusion au péché originel racheté par la Passion. Une grappe de raisin, évoquant la scène et la croix, symbolisant son sacrifice futur. Une grenade, symbole du péché, mais aussi de fécondité, d'éternité et de résurrection. S'il ne fait pas un signe de bénédiction, le petit Jésus peut tenir un globe, mais aussi un petit animal comme papillon. Sixième section, deuxième sous-section, composition. La plupart des historiens de l'art proposent à la suite de Louis Réau de distinguer entre composition verticale et composition horizontale. Néanmoins, cette typologie est parfois discutée. Certains chercheurs, qui relèvent que certaines œuvres ne tiennent ni de l'un ni de l'autre, avec un décalage entre Marie et Anne par exemple, préfèrent distinguer entre les œuvres où domine le principe d'inclusion, la silhouette d'Anne servant pour ainsi dire à englober les deux autres, telles des poupées russes, et celle tenant de celui de juxtaposition. Enfin, dépassant ce clivage, Jean-Pierre Maïdani-Gérard distingue quatre catégories de représentations. Anne et Marie sont assises côte à côte, Anne est seule assise, Marie sur ses genoux. Anne et Marie se tiennent debout côte à côte. Anne est debout et porte Marie dans ses bras. La composition verticale et son symbolisme. Trois images de l'évolution de la composition du thème illustrent ce paragraphe. Traditionnellement, les représentations du thème sont de composition verticale. Masaccio et Masolino da Panicale, Sant'Anna Metterza, 1424 à 1425, Florence, Galerie des Offices, numéro d'inventaire, 8386. Avec le temps, la structure verticale a évolué selon une diagonale. Penozzo Gozzoli, la Vierge et l'Enfant avec Sainte-Anne et Donateur, vers 1470, Pise, Musée National San Matteo. Finalement, s'installe une structure où Marie et Jésus sont systématiquement tenus dans les bras d'Anne. Artiste anonyme, Heilige Anna Selbstritt, vers 1500, Munich, Bayerisches Nationalmuseum, Fränkische Galerie. Les artistes se sont trouvés confrontés pour les trois personnages à des problèmes de différence de taille, d'âge et de nature, et à leur traduction dans l'espace. Les trois membres n'ayant pas besoin, par essence, d'être présentés consubstantiellement comme la Sainte Trinité. Les artistes ont une certaine liberté, mais la tradition iconographique de la Sainte Anne Trinitaire se codifie rapidement au sein de chaque espace géographique, et les groupes n'y présentent que peu de variantes. Les premières représentations de Sainte Anne Trinitaire suivent la forme picturale byzantine, consistant en un schéma vertical très strict, où les personnages sont situés les uns au-dessus des autres. Anne se tient debout en position supérieure, dominant Marie, souvent assise sur un trône. Cette dernière, enfin, tient l'enfant Jésus dans ses bras. Cette composition, volontiers qualifiée de « gigogne », correspond à la représentation la plus ancienne du thème, mais était également la plus courante en Italie jusqu'au début du XVIe siècle. Historiquement, le tableau peint par Masaccio et Masolino da Panicale vers 1425 confère au thème une telle monumentalité qu'il constitue une œuvre de référence pour ses suiveurs et fait l'objet d'un grand nombre de reprises. Une première évolution substitue à cette composition verticale une diagonale qui, partant de la droite, juxtapose les visages des trois personnages aux proportions identiques. C'est ce que propose ainsi vers 1470 Benozzo Gozzoli dans un tableau destiné à un couvent de religieuses de Pise. Une telle disposition demeure peu répandue au nord des Alpes. La représentation courante dans l'art gothique allemand tardif, correspondant à une seconde évolution, montre Anne debout ou assise, qui tient symétriquement sur son bras gauche Marie, souvent une enfant ou une adulte miniature, et sur son bras droit, soit à la place d'honneur, l'enfant Jésus. Il arrive tout de même, mais beaucoup plus rarement, que les dix figures soient inversées gauche-droite. En Italie, les deux variantes cohabitent à partir du XVIe siècle. Le thème iconographique de la Sainte Anne Trinitaire ne reproduit pas une figuration réaliste et propose une version symbolique de l'épisode du Protévangélie de Zacchée. Il s'agit tout à la fois de défendre par une logique visuelle implacable l'incarnation de Dieu, l'Immaculée Conception de la Vierge et la sainteté d'Anne, d'exposer le rôle dominant d'Anne, d'exprimer l'importance de la lignée féminine dans la généalogie de Jésus et de proposer enfin une démonstration théologique visuelle d'une conception miraculeuse sur deux générations. Le tableau de Masaccio et Masolino da Panicale, par exemple, souligne la dimension théologique du Verbe incarné dans la chair de Marie en donnant à l'enfant une très forte présence physique. De même, les peintres soulignent la généalogie matrilinéaire de Jésus en l'installant devant le ventre de Marie, tandis que celle-ci est assise entre les jambes de sa propre mère. Passage à une composition horizontale et installation d'une narration. Une image illustre ce paragraphe, Barna da Siena, Le mariage mystique de Sainte Catherine, vers 1340, Boston, Musée des Beaux-Arts, numéro d'inventaire 15-1145. Le groupement vertical suscite un débat théologique concernant la place de Sainte Anne en position surélevée, la non-canonicité de ce personnage étant à l'origine de la querelle de Sainte Anne qui dure du XIVe au XVIIe siècle. Cette querelle explique que se développe au XVe siècle le choix de représenter les deux femmes non pas l'une au-dessus de l'autre, mais l'une à côté de l'autre, selon un groupement horizontal. Alors que pour le thème de la Trinité divine, l'Église impose le groupement vertical du trône de la sagesse, en latin « sedes sapientiae ». L'horizontalisme de la Trinité humaine permet ainsi de rétablir les proportions et la séparation très nette des trois figures juxtaposées et ne présente pas le même inconvénient que dans la Trinité divine dont les trois personnes sont consubstantielles. Cette innovation décisive a lieu en 1340. Barna da Siena met en scène Sainte Anne et Marie assises côte à côte sur un banc, partageant une égale importance et encadrant Jésus qui se tient debout dans son mariage mystique de Sainte Catherine où tout est vraisemblable, les âges, les proportions, les attitudes. Si elle naît en Italie, cette composition se développe plutôt dans l'ère culturelle de l'Europe du Nord des 15e et 16e siècles, et la composition présentant les deux femmes debout côte à côte à la faveur des Pays-Bas et de la Flandre. Parmi ses avantages, le glissement de l'un ou l'autre des personnages de la composition permet de créer un contact, notamment entre la grand-mère et le petit enfant. On trouve parfois même Jésus dans les bras d'Anne. Pourtant, cela ne s'est pas fait par un abandon net de la composition verticale. L'équilibre fut atteint lorsque, sur le modèle de la Trinité céleste, les deux mères furent assises côte à côte de la part et d'autre de Jésus. Il est difficile d'établir une évolution chronologique car toutes ces variantes ont coexisté pendant la première moitié du XVIe siècle. Mais la formule horizontale est celle qui connut la plus grande faveur. Un tel affranchissement de la verticalité permet de faciliter la délivrance d'une narration à visée symbolique. Il s'agit alors d'une scène d'histoire qui ne se lit plus simplement comme l'annonce de la passion à venir, mais comme la nécessaire acceptation du drame par Marie, avec le concours de sa mère, voire de son fils. La disposition horizontale, telle qu'elle se déploie notamment en Europe du Nord, se prête tout à fait à des variantes dont l'historienne de l'art Annie Cloula-Brousseau relève en ces termes les différentes typologies. Marie bise de côté, Marie reprend son fils et l'enfant partagé, qui témoignent des déplacements de Marie et l'enfant dans des types de compositions qui se succèdent ou coexistent. Une dynamique nouvelle est introduite au milieu du XIVe siècle sous l'influence des Meditationes de Vita Christi, du pseudo Bonaventure. Ainsi, le premier pas de l'enfant Jésus, dans lequel Jésus s'exerce à marcher, témoigne de compositions dans lesquelles il devient actif et non figé dans les bras de sa mère. De même, dans le premier quart du XVIe siècle, il arrive que Marie quitte le giron d'Anne, glisse de son bras ou de son genou pour se tenir modeste et frêle debout à ses côtés. La composition révèle alors parfois une certaine indifférence du couple formé par Jésus et sa grand-mère envers Marie. Sixième section, troisième sous-section, ajouts et variantes. Une composition enrichie, la Sainte Parenté. Deux images illustrent ce paragraphe. Artiste inconnu, Sainte Anne Cartener, sculpture en bois fabriquée, peut-être à Hildesheim en Basse-Saxe, 1515 à 1530, New York Metropolitan Museum of Art, numéro référence 16 32 208. Et artiste inconnu souabe ou franconien, la Sainte Parenté, vers 1480 à 1490, Washington National Gallery of Art, numéro d'inventaire 2002 13 1. Dès lors que la composition perd de son caractère rigide par le passage de la verticalité à l'horizontalité, elle peut s'ouvrir à la présence de personnages autres que la grand-mère, la mère et le fils. De façon anecdotique, la sainte lignée peut ainsi s'ouvrir à la figure de la mère de sainte Anne, sainte Emerency, formant alors une sainte Anne Caternaire, en allemand Anna Selbfiat. Même si cette extension du thème demeure une curiosité iconographique, d'autres figures affilées à sainte Anne ne tardent pas à s'ajoindre au groupe, en particulier ses maris, Joachim, Cléophas et Salomas, et les trois filles qu'elle a eues avec eux, Marie, mère de Jésus, mais aussi Marie Jacobée, fille de Cléophas, et Marie Salomé. Il s'agit de la Sainte Parenté, dont certaines représentations comptent jusqu'à 29 personnages. Elle est connue également sous le nom de lignée de Madame Sainte Anne, ou descendance apostolique de Sainte Anne. Cette famille d'images est souvent appelée la Sainte Anne des peintures et des sculpteurs, ce thème dérivant de la Sainte Anne trinitaire, connaît un succès dans toute l'Europe du Nord. Ses plus anciennes représentations y apparaissent dans le dernier quart du XVe siècle. Cependant, le Concile de Trente rejette en 1563 le triple mariage d'Anne, mettant ainsi un coup d'arrêt à la représentation de la Sainte Parenté. Dès lors, dans l'espace germanique, conformément aux directives du Concile, selon lequel le titre de Trinité terrestre doit être réservé à la Sainte Famille, se développe la représentation de cette dernière. Finalement, avec celui de la Sainte Anne Trinitaire, ce sont pas moins de 5 thèmes iconographiques qui cohabitent ou se succèdent en Europe à partir du XVIe siècle. La maternité de Sainte Anne, la Sainte Anne Trinitaire, dite également Sainte Filiation, la présentation de la Vierge par Sainte Anne, l'éducation de la Vierge et la Sainte Parenté. Une narration régénérée par Léonard de Vinci. 3 propositions de Léonard de Vinci pour représenter le thème illustrent ce paragraphe. Léonard de Vinci, Sainte Anne, la Vierge, l'Enfant Jésus et Saint Jean-Baptiste, enfant, dit carton de Burlington House, entre 1499 et début 1501 ou entre 1506 et 1513, Londres, National Gallery, numéro d'inventaire NG 6337. Andrea Piccinelli, Sainte Anne, peinture issue du carton de Fra Pietro de Léonard de Vinci, daté entre 1500 et avril 1501, 1515 à 1517, perdu, Berlin, Kaiser Friedrich Museum. Et Léonard de Vinci, Sainte Anne, la Vierge et l'Enfant Jésus jouant avec un agneau, 1503 à 1515, musée du Louvre, numéro d'inventaire 776. L'apport de Léonard de Vinci est important d'un point de vue artistique et régénère la thématique par une nouvelle proposition symbolique. S'il n'invente pas la représentation à 3 personnages du thème de la Sainte Anne Trinitaire, Sainte Anne, la Vierge et Jésus, la peintre est le premier à adjoindre au groupe un 4e protagoniste qui n'est pas simple spectateur comme un donateur, mais qui fait partie intégrante de la scène. Il s'agit de Saint Jean-Baptiste dans le carton de Burlington House, entre 1499 et début 1501, ou entre 1506 et 1513, puis de l'agneau dans le carton de Fra Pietro, 1500 à 1501. L'intérêt de cette 4e figure tient d'abord à ce qu'elle suscite l'action de Jésus, laquelle affecte de plus en plus la disposition de l'ensemble du groupe, créant ainsi de nombreux équilibres dans la composition. Dès lors, le peintre, dans son œuvre finale visible au Louvre, leur fait adopter des gestes naturels et souples. Le résultat est un ensemble radicalement différent des compositions hiératiques antérieures qui figeaient les personnages dans une stricte frontalité. De plus, l'ajout de ce 4e personnage dramatise et amplifie la symbolique, par ailleurs déjà connue, selon laquelle Marie, aidée en cela par sa mère, doit accepter le futur sacrifice de son fils. Ainsi, dans le carton de Burlington House, le dernier des prophètes, qu'est Saint Jean-Baptiste, enfant, reconnaît la divinité du Messie incarné. Et dans le carton de Fra Pietro, comme dans le tableau du Louvre, la figure de l'agneau permet au peintre d'insister sur le sacrifice divin. Le peintre trouve ainsi cette dernière invention, à tel point particulièrement brillante, qu'il la conserve par la suite dans son tableau final. En revanche, toujours dans le carton de Fra Pietro, il propose de vieillir Sainte Anne dans le but de l'humaniser. Mais ce faisant, il diminue la portée théologique de l'œuvre, si bien qu'il finit par en abandonner l'idée. Quoi qu'il en soit, se construit une narration que Fra Pietro Novellara, un contemporain du peintre, traduit ainsi. Début de citation. Dans ce carton est représenté l'enfant Jésus, âgé d'environ 1 an, qui s'est presque échappé des bras de sa mère. Il se tourne vers un agneau et semble l'enlacer dans ses bras. La mère, qui se lève presque des genoux de Sainte Anne, tient fermement l'enfant pour le séparer de l'agneau, animal sacrificiel, qui s'y finit la passion. Sainte Anne, qui se lève un petit peu, semble vouloir retenir sa fille afin qu'elle ne sépare pas l'enfant de l'agneau, ce qui veut peut-être figurer l'Église qui ne souhaite pas que soit empêchée la passion du Christ. Fin de citation. Finalement, le peintre propose une innovation qualifiée par Daniel Arras d'absolument exceptionnelle, faire descendre Jésus au sol pour lui permettre de quitter les jambes de sa mère. C'est en effet symboliser tout à la fois, et en une seule image, une naissance, une filiation et un départ. Par ailleurs, le peintre s'affranchit de certaines conventions passées. Il humanise et paganise le thème traditionnel. Ainsi, les strictes conventions traditionnelles concernant les vêtements, guimpe stricte de matrone pour Anne et cheveux défaits pour Marie, sont délaissées dans le tableau final conservé au Louvre. Une conséquence frappante et nouvelle peut alors s'établir. Dépourvue de ses habits signifiants et représentée par des traits moins marqués, Anne semble désormais, que ce soit dans le carton de Burlington House ou dans le tableau final, avoir le même âge que sa fille. De même, jusqu'alors négligé, le paysage devient signifiant, loin des fonds dorés ou des structures architecturales strictes. Les personnages évoluent dans un vaste et vaporeux paysage baignant dans la douceur enveloppante du sfumato et composé d'éléments porteurs de sens comme les éléments minéraux et l'arbre feuillu. Enfin, les différentes propositions du peintre constituent autant de tentatives d'affranchissement des compositions traditionnellement associées au thème. Si, dans le carton de Burlington House, le premier carton, le peintre propose une composition horizontale et dans le carton de Fra Pietro, le second, une verticale, il réussit dans le tableau final à créer une composition hybride, à dominante pyramidale, dans laquelle Sainte Anne est mise en valeur au moyen d'un jeu d'enlacement, d'enchevêtrement des corps, multipliant les effets de contrapposto. La transgression de Caravage. Une image illustre ce paragraphe. Caravage, la Madone des Palefreniers, 1505 à 1506, Rome, Galerie Borghese, numéro d'inventaire 110. En mars 1606, Caravage livre une toile sur le thème de la Sainte Anne Trinitaire destinée à une chapelle de la basilique Saint-Pierre de Rome tenue par une confrérie fondée au milieu du XIVe siècle, la confrérie des Palefreniers. Il s'agit alors de remplacer un tableau attribué à Giovan Francesco Peni dans lequel Anne, debout, présente Marie et Jésus à Saint-Pierre et Saint-Paul. Cette commande est la plus prestigieuse jamais reçue par le peintre. Pour autant, il semble que la toile est alors jugée à tel point scandaleuse qu'elle est décrochée moins d'un mois après son installation. Plusieurs éléments iconographiques discutables, car indécents, tentent à justifier ce retrait. Le décolleté pigeonnant de la Vierge Marie, qui de surcroît emprunte ses traits à une courtisane, la présence centrale et évidente du sexe de l'enfant, d'autant qu'il n'est plus ici un nourrisson, l'aspect assez misérable de Sainte Anne, présentée comme une vieille plutôt que comme une vénérable, c'est une interprétation très crue, très plébienne, souligne l'historien de l'art Roberto Longhi, qui juge même que ce rejet est inéluctable, surtout avec Sainte Anne, cette vieille mégère vraiment pas présentable. Mais davantage que des questions de décence, c'est l'enjeu théologique qui semble le plus crucial. D'ailleurs, le poids du cardinal Tolomeo Gallio, gardien du dogme, semble avoir été déterminant dans le rejet de la toile. Car le fait que la Sainte Anne ainsi représentée est non seulement vieille, mais aussi grimaçante et distante, pose problème. Début de citation. En détachant le groupe constitué par la Vierge à l'enfant d'une Sainte Anne fâcheusement humaine et tout à fait passive, très antipathique, bien que son nom signifie « la grâce », le Caravage affirmait la séparation radicale entre l'œuvre de rédemption opérée par Marie et son fils et l'intervention de la grâce, ce qui revenait à dire implicitement que la victoire sur le péché était l'œuvre de l'homme et étrangère à toute intervention divine. Fin de citation. Le tableau contient pourtant des éléments irréprochables sur le plan théologique pour l'époque. La description de l'enfant qui aide la Vierge à écraser le serpent est rigoureusement conforme aux consignes papales de 1569 sur le rosaire et sur la place de la mère de Jésus. Une note précise, il est fait référence ici à la bulle Consuevunt Romani Pontifices, émise par Pie V en 1569, qui renvoie explicitement à la lutte des dominicains contre les albigeois. Ce texte explique que la Vierge Marie, symbolisant l'Église catholique romaine, et celle qui écrase le serpent de l'hérésie avec l'aide de l'enfant Jésus, alors que les protestants y voient l'œuvre de Jésus seul. Pour bien comprendre ce détail, il faut se restituer dans le contexte de la contre-réforme, et donc de la vision de la place de la Vierge dans le dogme chrétien. L'ajout de Sainte Anne n'est pas en soi un problème, puisque sa présence suggère la doctrine de l'Immaculée Conception, depuis le tournant du XVe siècle. Mais Caravage brise là une tradition amorcée par Léonard de Vinci, qui consiste à composer une pyramide qui associe étroitement les trois personnages. Sainte Anne est au contraire mise de côté, le visage hâlé et les mains rugueuses, n'empêchant pas, selon Langdon, d'y voir un aspect grave et digne évocateur de la sculpture classique. Au contraire de la mère et de l'enfant dont l'humanité chaleureuse est immédiatement perceptible. On peut même considérer que ce naturalisme frappant a pu contribuer à choquer certains spectateurs, ce qui renvoie aux questions de décorum. Certains chercheurs invitent néanmoins à la prudence quant aux raisons du rejet de ce tableau. Bien des idées reçues sur Caravage proviennent de ses premiers biographes, notamment Giovanni Pietro Bellori et Giulio Mancini, y compris dans ce qu'il peut y avoir de faux ou d'orienté dans leurs interprétations. Ainsi, Sibylle Ebert-Schäferer conteste tout à fait un quelconque refus de ce tableau, mais considère qu'il a été volontairement transféré par la confrérie des palefreniers dans leur église, afin qu'il ne soit redevenu avec profit au cardinal Scipione Caffarelli Borghese. De fait, toujours selon elle, la livraison du tableau est l'occasion d'aucun scandale. Après tout, la théologie contemporaine à Caravage n'accorde à Sainte-Anne qu'un rôle subalterne, ce qui est ici le cas. L'historienne de l'art Catherine Puglisi va dans ce même sens. Début de citation. Compte tenu de l'illustration apparemment parfaite de Caravage du dogme marial, on ne peut que s'étonner du sort survis par sa Madone des palefreniers, si promptement enlevée de Saint-Pierre. Fin de citation. Dès lors, le retrait du tableau ne serait lié qu'au caractère particulier de son lieu d'exposition. Peut-être n'y a-t-il pas finalement que quelques détails un peu gênants pour la basilique Saint-Pierre, mais qui n'auraient posé aucun problème ailleurs, comme l'aspect peu avenant de Sainte-Anne, la nudité du Christ, une note précise, traditionnellement la nudité du Christ, loin de constituer un interdit, découle de l'intention théologique de confirmer le Christ comme vrai Dieu et vrai homme, c'est-à-dire que sa représentation doit le montrer visiblement humain et sexué. Ou la tenue de Marie, qui a la robe partiellement retroussée comme l'aurait fait une simple ménagère. Peut-être est-ce encore une fois le naturalisme de cette femme, à laquelle toute mère pourrait s'identifier, qui ne convainc alors tout simplement pas pour la prestigieuse basilique et ses très sourcilleux gardiens du dogme. Septième section. La Sainte-Anne Trinitaire par espace géographique. Première sous-section, en Italie. Une image illustre cette sous-section. Disciple de Martino Spanzotti, Sant'Anna Meterza, fin du XVe siècle, Favria, église di San Pietro Vecchio. Bénéficiant d'une très riche iconographie populaire, le thème iconographique de la Sant'Anna Meterza, Sainte-Anne en troisième, connaît avec le Concile de Trente son plus glorieux épanouissement dans l'ère culturelle italienne bien plus que partout ailleurs en Europe. Il tire, en effet, son succès de la grande dévotion populaire dont bénéficie Sainte-Anne depuis l'implantation précoce de son culte à Rome au milieu du VIIe siècle. De même, en tant que puissance maritime de la Méditerranée occidentale, Pise constitue un autre site d'implantation du culte de la Sainte. Ainsi, sa première église consacrée à la Sainte date de 1086. Suivront des villes comme Naples ou Gênes. Signe de son importance dans les représentations de la Sainte Anne Trinitaire, Anne est ainsi systématiquement représentée, et jusqu'à Léonard de Vinci, comme la plus imposante, la plus solennelle, la plus âgée des trois personnages. Deux éléments expliquent ce succès. D'abord, ce sculpte est alimenté par le succès de la très populaire légende dorée du dominicain et archevêque de Gênes, Jacques de Voragine. De plus, l'un et l'autre, culte et thème, sont encouragés par les autorités religieuses. Ainsi, le pape Sixte IV met en place une indulgence qui promet la remise des péchés à quiconque prononce une prière devant l'image de l'Anna Meterza. En revanche, le thème de la Sainte Famille, qui en dérive, est quasiment absent de la péninsule. Seules quelques œuvres sont créées au nord, certainement sous influence des pays germaniques. Dans ce cadre, la ville de Florence constitue un cas particulier. En effet, Sainte-Anne est la protectrice de la ville depuis le soulèvement de ses habitants contre Gauthier VI de Brienne le 26 juillet 1343, jour de la fête de la Sainte. De plus, son image profite de ce que la Sainte apparaît comme la protectrice de la cité contre la peste. La population lui prête ainsi des vertus apotropaïques, notamment depuis l'épisode épidémique survenu dans la ville en 1348. mis sous un relatif silence durant une partie du XVe siècle. Le culte portant le thème iconographique de la Santa Anna Materza bénéficie de la restauration de la République lors de la chute des Médicis en 1494. L'image à Florence est donc liée à un contexte politique local qui la favorise. De fait, fait remarquer Daniel Arras, lorsque les Florentins défilent devant le carton de Léonard de Vinci, représentant la Sainte Anne Trinitaire et exposée en ville au printemps 1501, ce n'est pas tant pour admirer le travail de l'artiste que pour obtenir l'intercession de la Sainte, la ville étant sous la menace de César Borgia. Paradoxalement, le Concile de Trente, 1545 à 1563, parvient sans peine à étendre dans la péninsule une histoire de Sainte Anne déjà atteinte par la réforme protestante, premier quart du XVIe siècle. Le thème iconographique de la Santa Anna Materza est supplanté par celui de la Sainte Famille, dans lequel la Sainte, quand elle est présente, est en retrait. Jean-Pierre Maïdani-Gérard veut voir dans cette relégation un rejet par la réforme, puis la contre-réforme, de ce qui pourrait être assimilé à un culte païen antique, d'autant plus critiqué qu'il concerne une figure féminine. Dès lors, quand il est repris par des artistes, le thème est rendu réaliste et adouci, et la scène décrite entre les trois personnages emprunte son inspiration et ses caractéristiques à la scène de genre, les deux femmes présentant un important écart d'âge, Marie est tournée vers sa mère et la présente à son fils, la vieille femme et l'enfant, enfin, échangent des gestes affectueux. Septième section, deuxième sous-section, en France. Trois images illustrent cette sous-section. Artiste anonyme, Sainte Anne et Marie, 1210, Chartres, cathédrale Notre-Dame de Chartres, Trumeau du portail nord dit portail de l'Alliance. Clément de la Motte, vitrail de Sainte Anne, 1501, apte cathédrale Sainte Anne. Et Jacques Durandy, retable de Sainte Marguerite, milieu du XVe siècle, Fréjus, cathédrale Saint-Léonce. La Sainte Anne Trinitaire est située dans la niche en haut à droite. La figure de Sainte Anne fait l'objet d'une véritable dévotion en France. La première représentation d'un groupe Sainte Anne-Marie remonte à 1210 avec une sculpture sur le trumeau du portail nord de la cathédrale de Chartres, créée à l'occasion du transfert dans les lieux de la tête d'âne. Puis c'est la dévotion envers les demi-sœurs de la Vierge, les trois Maries, qui s'expriment plus volontiers dans le pays, comme en témoigne une miniature peinte par Jacques Fouquet au XVe siècle dans le livre d'heures d'Étienne Chevalier. En France, la Sainte Anne Trinitaire s'exprime surtout sous la forme de la statuaire. Le thème apparaît ainsi sur le retable dit de la Tarasque, dans l'hôtel des Aïjosi, conservé dans la cathédrale Saint-Sauveur d'Aix-en-Provence, et achevé le 28 janvier 1470 par le sculpteur Odinet Stéphanie. La première représentation sur vitrail d'une Sainte Anne Trinitaire en France est recensée dans la cathédrale Sainte Anne d'Apt. Celui-ci date de 1501 et est créé dans une chapelle où sont conservées des reliques enveloppées dans un étendard connu alors comme le voile de Sainte Anne, en fait le manteau d'un calife égyptien du XIe siècle. La conception semble avoir pour source d'inspiration un dessin ou une gravure provenant des Pays-Bas. Concernant la peinture, enfin, les tableaux, notamment ceux d'autel, sont rares et apparaissent à partir du milieu du XVe siècle. De manière générale, la France connaît deux grandes sources d'influence. Si les tableaux de la partie septentrionale du pays sont d'inspiration nordique, et pour cette raison ne présentent aucune originalité, ceux du Sud adoptent le style gothique international. Cependant, si le culte de Sainte Anne bénéficie d'un réel intérêt en France, peu de témoignages de sa représentation en Sainte Anne Trinitaire sont parvenus jusqu'à l'époque contemporaine, en comparaison avec les autres pays d'Europe. En effet, les guerres de religion et la Révolution française ayant été l'occasion de nombreuses destructions, il se peut qu'un grand nombre d'œuvres qu'il a montrées aient disparu. Les chercheurs soulignent un grand intérêt pour Sainte Anne dans le centre, en Normandie et en Bretagne, cette dernière étant placée sous le patronage de la Sainte. En Bretagne, bien que tardif, puisqu'il remonte au XVIIe siècle, l'intérêt pour la représentation du thème semble donc à l'avenant. En témoignent les conditions de la création du pèlerinage à Sainte-Anne-d'Auray. En mars 1625, une statue en bois représentant la déesse romaine Bona Dea, allaitant deux enfants, est découverte par un paysan, Yvon Nicolazic. Elle est alors modifiée par les moines capucins d'Auray pour en faire l'image d'une sainte Anne trinitaire tenant sur ses genoux la Vierge et l'enfant Jésus. Encore très nombreuses dans cette région, les représentations du thème adoptent majoritairement la structure verticale et relèvent de l'art populaire. Quant au reste de la France, enfin, les représentations de la sainte Anne trinitaire reprennent les caractéristiques de l'art flamand dans le Nord et de l'art germanique en Alsace, dont elles adoptent la composition horizontale. Septième section, troisième sous-section, Europe du Nord. Deux images illustrent cette sous-section. En 1518, Martin Luther rejette violemment le culte de Sainte Anne. Lucas Cranach l'Ancien, Martin Luther, 1528, Florence, Galerie des Offices. Et Quentin Metzi, panneau central du triptyque de la confrérie Sainte-Anne à Louvain, vers 1508 à 1509, Bruxelles, Musée Royal des Beaux-Arts de Belgique, numéro d'inventaire MG de 1985. En Europe du Nord, c'est dans l'ère culturelle allemande et aux Pays-Bas que le thème de la Sainte-Anne trinitaire s'installe le plus profondément et le plus durablement, à ce point que le terme « Anna Zeltrit » est couramment employé dans les autres langues pour désigner brièvement le groupe. Une note précise, Virginia Nixon désigne plus particulièrement la région historique et culturelle de Rhénanie, comprenant la partie riveraine du Rhin en Allemagne, et ajoute la Suisse et l'Autriche à l'est, l'Alsace au sud, et le Luxembourg à l'ouest jusqu'aux Pays-Bas. Cette installation s'étend sur une période allant du XVe au XVIIe siècle. Le thème est bien implanté dans toutes les couches de la société, aussi bien chez les clercs que chez les laïcs, et se développe notamment par l'intermédiaire de confréries spécifiquement dédiées. Les raisons de ce succès sont multiples. D'abord, le Saint-Empire accueille de nombreuses reliques, telles que le pouce de la main droite et les fragments de bras et de doigts de Sainte-Anne que rapporte de Terre Sainte en 1493 le prince électeur Frédéric III de Saxe, pour sa collection de reliques à Wittenberg. Par ailleurs, la figure de Sainte Anne s'accorde avec les valeurs familiales promues dans la société germanique et, à travers elle, les valeurs de stabilité sociale qu'elle véhicule. De plus, Sainte Anne est aimée pour son rôle d'intercesseur auprès de Dieu lors des nombreux épisodes de guerre et d'épidémie. Cela se traduit donc par un engouement populaire. Ainsi, l'historien de l'art Vincent Delieuvin souligne combien les traces de brûlures par les flammes de bougies que l'on peut trouver sur des statues de Sainte-Anne trinitaire témoignent de la ferveur des fidèles. Le culte dédié à Sainte-Anne se développe sous la forme de Sainte-Anne trinitaire, puis sous sa forme dérivée de Sainte-Parenté. De même, dans la monde clérical, cela se traduit par la fondation, par les franciscains, de nombreuses confréries dédiées à la Sainte, des chapelles et églises, qui lui sont dédiés se multiplient et partant ses images. Cette dévotion à l'image de Sainte Anne Trinitaire se confirme dans les différentes couches de la société, malgré les critiques émises en 1518 par Martin Luther, qui qualifie la Sainte d'idole, Abgott en allemand. Un accord s'élabore même entre catholiques et protestants autour de la Sainte Famille et des mariages successifs de la Mère de Marie. Ainsi, évoquant le triple mariage, un ancien moine devenu protestant écrit en 1523, début de citation, « Je crois que Dieu a établi le mariage de telle sorte qu'une pieuse personne mariée, même s'il a été marié trois fois, est plus estimée de Dieu qu'un moine ou une nonne qui sont restés chastes pendant 30 ans. » Fin de citation. Cela n'empêche pas Frédéric III de Saxe, catholique mais sensible aux arguments de Luther, de renoncer à son culte la même année. De fait, les deux thèmes iconographiques de la Sainte Anne trinitaire et de sa dérivée, la Sainte Parenté, cohabitent volontiers dans le Saint-Empire romain germanique de 1450 à 1550 environ. Leur représentation ne décroît que lentement à la suite des directives du Concile de Trente, selon lequel le titre de Trinité terrestre doit être réservé à la Sainte Famille. Dans le Saint-Empire, La Sainte Anne Trinitaire, Anazel Trit, suit un schéma iconographique aussi strict que répandu. Début de citation. Anne, l'aïeule, est coiffée comme une femme mariée ou d'âge mûr, d'une guimpe formant mentonnière et d'un voile dissimulant sa chevelure. Sa fille, la Vierge, est une fillette gracile aux cheveux dénoués. Son petit-fils, Jésus, est un jeune enfant nu. Et, debout en position centrale, Anne, l'aïeule, porte sur un bras sa fille Marie et sur l'autre son petit-fils Jésus, selon une composition symétrique et un amenuisement de la figure mariale sans souci de vraisemblance. Fin de citation. Dans la région néerlandaise, le thème de la Sainte Anne Trinitaire connaît un succès durable. Néanmoins, celui de la Sainte Anne Éducatrice prend peu à peu le pas pour la supplanter à la fin du XVIe siècle. Présent depuis le XIVe siècle en Angleterre, il migre aux Pays-Bas et dans les régions limitrophes. Il faut voir là les effets des préconisations du Concile de Trente, comme dans l'ère germanique, mais aussi considérer l'influence du carme flamand et évêque de Tournai, Laurent de Kuyper, dont l'ouvrage « La véritable histoire de la Sainte Grand-Mère du Christ » paru en 1593, confirme le rejet du triple mariage d'Anne et donc de la Sainte Famille. Dès lors, les conventions iconographiques évoluent. Anne n'est plus une mère idéalisée, puisque son visage est marqué par l'âge. Les traits sont plus accusés, le menton proéminent. La jeune Marie, bien que placée dans le giron de sa mère, lui tourne maintenant le dos. Septième section, quatrième sous-section, autres régions d'Europe et du monde. Une image illustre cette sous-section. Santa Anna la Virgen y el Niño, seconde moitié du XVIe siècle, Séville, église Sainte-Anne. Le thème de l'Anna Trina, ou Anna Triplet, connaît un certain succès dans la péninsule ibérique. La production la concernant correspond au style néerlandais. En effet, il existe de nombreux liens économiques et artistiques entre les Pays-Bas, le Saint-Empire romain germanique et l'Espagne, notamment avec l'avènement de Charles Quint. Et l'art espagnol se voit grandement influencé par les apports de maîtres néerlandais qui viennent dans le pays. Annie Cloula-Brousseau évoque ainsi, en guise d'exemple, le sculpteur anversois Gilles de Siloé, qui compose à la fin du XVe siècle un retable dans la cathédrale Sainte-Marie de Burgos, au sommet duquel il place un groupe de Sainte-Anne Trinitaire. De fait, on trouve souvent en Espagne des compositions de tripes horizontales où les deux femmes de taille identique sont assises côte à côte, l'enfant occupant une place centrale, ce qui correspond aux caractéristiques de l'art du nord de l'Europe. Le thème fait souvent l'objet de représentations sculptées, en particulier sous forme d'effigies, portées en procession lors des fêtes religieuses. Contrairement à ce qui se passe en Italie ou en France, le thème se maintient dans le royaume jusqu'au XVIIe siècle avant de décliner. L'image de la Sainte Anne Trinitaire se trouve aussi en Europe centrale, dès le XIIIe siècle jusqu'au milieu du XVIe siècle. Tchèques et Moraves la nomment Anna Samatreti. En revanche, on ne trouve pas d'occurrence de mise en œuvre de thèmes plus à l'est. Concernant enfin le Nouveau Monde, à la suite d'une vigoureuse résurgence du culte de Sainte Anne en France et plus particulièrement en Bretagne, la Nouvelle France, terre catholique par la force des choses, est au XVIe siècle un lieu où les représentations du thème s'implantent avec succès parmi les colons, ce dont témoigne l'érection de la cathédrale de Sainte-Anne de Beaupré, qui devient un centre de pèlerinage pour la région. Quant aux peuples autochtones, comme les Indiens Micmac, la professeure acadienne d'histoire comparée des religions, Denise Lamontagne, décrit leur conversion par, début de citation, un procédé de conversion par l'image, pour ces païens, qui ne savaient ni lire ni écrire, les images saintes se présentaient comme un véritable lieu théologique, leur permettant, pour ainsi dire, de lire en regardant sur les murs. Fin de citation. Or, un lien privilégié entre Sainte Anne et les Amérindiens s'établit. Néanmoins, comme sur le vieux continent, le processus issu du Concile de Trente conduit à l'élimination progressive des saints au profit de l'unique figure de Marie. Il s'ensuit une marginalisation de la figure de Sainte Anne. À la représentation de la Sainte Anne Trinitaire se substitue alors celle de la Sainte Anne Éducatrice, qui s'impose d'autant plus qu'elle est proposée au peuple autochtone par un rapprochement avec la figure de Nogami, la grand-mère détentrice d'expérience et de sagesse. Quant à l'Amérique du Sud, c'est également la variante de la Sainte Anne éducatrice qui, par l'intermédiaire de l'Espagne, s'y établit avec succès jusqu'au XIXe siècle. Cet enregistrement et tout le texte de l'article sont soumis à la licence de documentation libre GNU, disponible à l'adresse http://www.gnu.org/licence/fdl-1.3.html.